Aïssa Maguer, bonjour. Donc vous voilà à Cannes avec votre court-métrage présenté dans le cadre de l'opération Talent Adami Cannes 2022, Nos Féministes. On va y revenir. Mais avant ça, vous avez à peine déposé vos bagages. Vous venez de New York, non ? Expliquez-nous un petit peu l'African Film Festival.
Oui, je suis allée à Washington, à Atlanta. Je suis allée à New York. Ça, c'est pour mon documentaire Marcher sur l'eau. Je parle donc du réchauffement climatique et du manque d'eau à l'échelle d'un village au Niger. Et donc là, cette fois-ci, c'est pour cette sélection des talents Cannes Adami avec 4 courts-métrages. Et j'en ai réalisé un qui s'appelle « Nos féministes ».
Alors, je reviens quand même encore avec New York. Vous n'êtes pas revenu les mains vides puisque vous avez eu un prix quand même, c'est le Frankie Award.
Fait.
Pas mal ça, non ? Expliquez-nous.
Oui, je fais partie d'une campagne qui s'appelle Don't Choose Extinction. Ne choisissez pas l'extinction. Et en fait, c'est les Nations Unies qui ont fait un spot dans lequel un dinosaure, en chair et en os, revient parmi nous, se rend dans la grande salle des Nations Unies pour faire un discours pour dire aux êtres humains que les dinosaures, eux, n'ont pas eu le choix. Voilà, ils ont eu une météore qui leur est tombée dessus. Mais nous sommes en train de causer notre propre extinction et au passage, de générer un dérèglement et une pauvreté énorme. Et donc, cette campagne, elle a donné lieu à des... il y a eu des interprètes et je suis la voix française de Frankie the Dinosaur. Et j'ai eu un prix donc pour ma contribution à cette campagne et mon film Marcher sur l'eau.
Chouette. Alors, Nos Féministes, justement, le court-métrage, c'est l'histoire qui se passe dans un théâtre. Est-ce que selon vous, ce sont deux univers, le cinéma et le théâtre, qui sont complémentaires, différents ?
Ce sont deux univers cousins. Ils ont des gènes en commun et en même temps, ils ont leur propre identité, leur propre réalité, leur propre mécanisme. Et le théâtre, c'est un univers qui me fascine. D'abord, j'avais depuis, 2 ou 3 ans, très très envie de raconter une histoire dans un théâtre. Et je me disais, je le ferai un jour peut-être, on verra. Et lorsqu'on m'a proposé de faire partie de cette collection de courts-métrages, le concept est simple. Hein. Il y a un fichier de 1000 acteurs, on peut en choisir 3. Donc on fait un casting, on choisit 3 acteurs et on a 3 jours de tournage. Il faut que le film dure moins de 15 minutes. Pardon. Et il faut que le film dure moins de 15 minutes. Donc tout de suite, j'ai repensé à cette envie que j'avais de tourner une histoire, un huis clos dans un théâtre. Et puis il y a autre chose, c'est que je voulais travailler avec Yoshi Oida. Yoshi Oida qui est un acteur que moi j'ai découvert quand j'étais toute jeune actrice, que je démarrais dans les pièces de Peter Brook.
Ah, ouais, ouais.
Et j'ai été à l'époque absolument subjuguée par l'éclat de son jeu, l'économie de son jeu, par sa capacité d'évocation. Il fait exister des mondes comme ça. Et puis le théâtre de Peter Brook, c'était du théâtre nu, sans décor, du théâtre vide, comme disait Peter Brook, l'espace vide. Et par ailleurs, j'avais lu les livres de Yoshi Oida et je rêvais de travailler avec lui. Vraiment, j'en rêvais. Et donc là, ça a été l'occasion. Trouver 3 jeunes acteurs, Axel Carrez, Selena Diouf, Colin Rage, et les confronter dans l'histoire de 3 acteurs qui sont en répétition sur scène face au metteur en scène, qui est un maître. Et j'avais envie qu'il y ait du secret, j'avais envie que le passé soit reconvoqué, j'avais envie de plein de choses. Donc c'est un film dans lequel j'ai mis beaucoup de gourmandise.
Ah, oui.
Et
vous êtes intéressée par la culture japonaise indépendamment ?
Alors je m'intéresse à la culture japonaise, mais en la connaissant très très mal.
Mm-hmm.
Je suis une novice complète. Et donc pour ce film, j'ai opéré une sorte de plongée. Parce que j'avais envie que... Yoshi Oida, il a... dans la vraie vie, 89 ans. C'est un monsieur...
C'est vrai qu'il ne les fait pas.
Il ne les fait pas, mais c'est absolument... Mais c'est incroyable, la vitalité de cet homme.
Et quoi, c'est un esthète ?
Oui, je pense que c'est un esthète. Mais alors, Yoshi Oida, il est acteur. Il met aussi en scène des opéras. C'est quelqu'un qui n'est pas qu'un simple comédien, même si c'est déjà beaucoup, hein, d'être déjà comédien. Et j'avais vraiment envie d'imaginer quelles avaient été les raisons pour lesquelles un homme avait quitté son pays dans les années 60 pour venir en France. Et quand j'ai commencé à faire mon enquête sur les années 60 au Japon, j'ai découvert ce qu'on pourrait appeler le mai 68 japonais.
Ah oui.
Et en fait, c'est la révolution portée par la jeunesse et les ouvriers qui a duré le plus longtemps dans le monde. On n'en parle pas beaucoup parce qu'il y a eu une chape de plomb dans le Japon lui-même au début des années 70. Et les Japonais jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas cette histoire. Mmh. Alors qu'il s'agit de l'histoire de leurs parents ou de leurs grands-parents qui, à l'époque, se sont révoltés contre beaucoup de choses. Contre l'occupation qui continuait de l'armée américaine de leur pays. Contre le fait que la culture était hyper élitiste et tournée, l'enseignement était très élitiste et tourné vers le passé. Donc la jeunesse avait vraiment le sentiment qu'on les forçait à apprendre des choses qui étaient désuètes, avec vraiment l'idée d'un carcan intellectuel. Et ils avaient comme ça envie de s'émanciper. Il y avait évidemment le spectre de la défaite lors de la Seconde Guerre mondiale. Et il y avait des mouvements artistiques incroyables et une jeunesse qui était vraiment prête à en découdre. Les images d'archives que j'ai trouvées, j'en ai mis dans le film, mais bon, c'est très, très furtif, elles sont d'une violence qu'on n'imagine pas du tout. Et donc, pour moi, ça a été l'occasion de découvrir un petit pan de l'histoire colossale de ce pays qu'est le Japon. Et j'ai travaillé avec Kiala Ogawa, qui est une chanteuse à l'origine et qui a accepté au début d'être juste la coach de Selena, qui joue le rôle de Gloria dans le film et qui est celle qui voue vraiment un culte au metteur en scène, qui parle japonais. Et de fil en aiguille, Kiala et sa maman, Mari Ogawa, sont devenues des membres à part entière de cette quête que j'avais par rapport au Japon. C'était génial.
Alors, Cannes, c'est aussi l'occasion de voir Maria Schneider, 1983.
Absolument.
Un documentaire assez percutant. Bon, pour les plus jeunes, oui. Ouais, Maria Schneider, c'est le dernier tango, c'est Bertolucci. C'est aussi une victime, peut-être, du machisme de ce monde du cinéma. C'est une victime d'un avant Me Too. Est-ce que pour vous on peut dissocier l'homme de l'artiste un peu comme le problème s'est posé avec Polanski?
Pour moi, nous sommes des citoyens à parts égales, quels que soient nos métiers, qu'on soit boulanger, tanneur, artiste ou chauffeur de car. Pour moi, aucun être ne doit être au-dessus des lois en raison de sa profession et quel que soit son apport artistique, aussi formidable soit-il. C'est une règle de base, un principe de démocratie. Et je pense que il y a la loi et que la loi vaut pour tous. Ça, c'est une chose. Ensuite, on peut regarder toutes sortes d'œuvres. Moi, personnellement, je ne suis pas pour la censure. Je dis simplement qu'il faut regarder en connaissance de cause et qu'on ne peut pas s'extraire du monde.
Peut-être mettre un petit sous-titre pour une petite plaque qui annonce attention ou...
Pourquoi pas, mais en tout cas faire offrir aux spectateurs et aux spectatrices de regarder une œuvre en toute connaissance de cause. Et en fait, cette notion de pleine conscience, elle est totalement indissociable pour le coup de la notion de liberté. Et pour moi, c'est ce qui compte le plus. Ensuite, il y a la question des décorations et des hommages. Et alors là, c'est vrai, j'avoue que parfois je ressens un malaise. Parce que j'ai le sentiment...
Un peu comme Adèle.
Oui, parce que j'ai le sentiment qu'on veut à tout prix protéger le temple artistique en l'extrayant du monde. Or moi, je considère que je suis une artiste dans le monde. Et que je suis, j'ai une démarche artistique qui est la mienne, j'essaie de faire mon chemin dans tout ça. En tant que citoyenne, je suis complètement je me nomme tout le monde. Et je tiens à le rester. Et je trouve simplement que rendre des hommages à des personnes qui ont des comportements aussi problématiques, tout en même temps, ne considérant pas la parole des victimes, c'est problématique.
Bien dit ça. Alors, votre autre visite à Cannes, c'est en tant que marraine des 20e Vision Sociale.
Oui.
Qui cette année a multiplié ses combats avec notamment le monde du travail, la place des femmes dans le monde, le dérèglement climatique, la défense des libertés, la question de l'exil et de la migration. En fait, tous des thèmes qui vous parlent, non ?
Oui.
Vous, en tant que bonne militante, quand même, non ?
Alors, ce n'est pas que du militantisme. En fait, ce qui me plaît, c'est que c'est un vrai festival de cinéma avec des films exigeants, des films d'auteur, et que la notion de cinéma social ne l'emporte pas sur le caractère artistique. Mmh. Et c'est ça, en fait. Quand on va dans un festival, je trouve qu'on doit y trouver son compte en termes de qualité et découvrir des œuvres fortes du point de vue esthétique, du point de vue narratif, des œuvres qui nous emportent par leur puissance. Et c'est cette complémentarité avec les sujets abordés qui me plaît vraiment. Et pour moi, c'est une fierté aussi de m'inscrire dans quelque chose qui prend racine dans l'idée du respect des travailleurs. Et quand on m'a raconté que ce lieu à la Napoule avait été, donc qui est un château à l'origine, qui donne un domaine incroyable avec de la végétation magnifique et qui donne sur la mer, sur son immensité, et que donc ce château avait été racheté par le comité d'entreprise, d'entreprise cumulée autour de l'énergie, par la CCAS, donc, et qu'on m'a raconté l'histoire de ces mineurs dans les années 30, dans les années 40, qui travaillaient dans des conditions épouvantables, qui avaient une espérance de vie très petite en raison des conditions de travail. Des gens qui avaient connu un labeur extrême qu'on n'imaginerait pas aujourd'hui en France. Et imaginez que ces personnes ont eu droit d'un coup au congé payé, qu'ils ont eu le droit au repos dans des conditions dignes, qu'ils ont eu le droit aux loisirs, aux vacances et à la culture, et que dans ce contexte, ils ont pu quitter le nord de la France et s'extraire d'une certaine façon d'une condition extrêmement difficile, prendre le train. Mais j'imagine l'aventure humaine que ça devait être. Moi, ça m'émeut vraiment. Prendre le train et
voir la mer pour la première fois.
Et arriver ici, près de Cannes, à la Napoule, arriver dans un endroit qui est pensé pour que leur dignité humaine face au travail soit pleine, en fait, et qu'ils se sont retrouvés en vacances ici, aller à la mer, se baigner, voir la plage et aussi bénéficier d'une offre culturelle. Parce qu'en fait, la culture, elle doit, pour moi, elle est par essence accessible. Pour moi, la culture, c'est pas l'élitisme. La culture, c'est le droit au savoir, le droit à l'évasion, le droit au rêve, le droit au frisson, le droit au savoir. Et imaginez que ces personnes, d'un seul coup, ont eu droit à ça. Pour moi, ça m'a amené évidemment à dire oui, dans la plus grande fierté.
N'en doute pas. Alors, on rappelle Nos Féministes, qui est dès à présent visible sur la plateforme de France 2. Et alors, aussi, pour ceux qui veulent vous lire, c'est qu'en 2018, vous aviez coécrit un essai « Noir n'est pas mon métier », et pour lesquels on vous félicite, en tout cas.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Au revoir.